Je sens ton poison dans mes veines. Fukushima, mon amour.
Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs fidèles des Radios Libres. Vous êtes en direct sur Radio Méga pour cette émission, cette nouvelle émission Atomic Mac, mais aussi vous nous retrouvez en rediffusion sur RDOA à DSA Région, Radiola Web Radio et Radiola Web Radio basée à Diolfi. Atomic Mac est une émission anti-nucléaire mensuelle réalisée par le réseau Arrêt du Nucléaire Drôme Ardèche. L'équipe est composée de Jean-Pierre pour ses choix musicaux. On espère qu'un jour on le retrouvera derrière nos manettes. On le salue à distance. Dominique, Georges et Gérard pour les interviews et les rubriques. Nos invités aujourd'hui, c'est Laurent Galandon, auteur de la BD Retour à Tomioka. Et pour l'adaptation de cette BD en film d'animation, nous avons François-Marc Baillet qui est le réalisateur qui se penche sur la mise en image et l'adaptation de ce film d'animation.
À la suite de la BD de Retour à Tomioka, il y a donc un film d'animation qui est en préparation. Le producteur de ce film présent aujourd'hui avec nous, c'est le directeur de Foliascope, Ilan Uroz. Jean-Marc Baillet, réalisateur du film, devait aussi être avec nous. Il est malheureusement malade et nous lui souhaitons une bonne convalescence.
Très bien, merci Dominique. Alors nous allons débuter la rubrique Abrac de notre ami. Ah, c'est pas rubrique Abrac.
C'est le billet Atomic Mac du
le
mois de février.
Atomic Mac, très bien. Alors billet Atomic Mac de ce mois de février, c'est à toi Georges.
Oui, bonjour auditrices et auditeurs. Alors ce jour, des infos sur une falsification de données de sécurité sur les réacteurs nucléaires au Japon. Ensuite, sur le redémarrage de la centrale de Kashiwazaki Kariba et aussi de Tchernobyl en Ukraine. Alors d'abord, selon France Info du 10 janvier 2026, le patron Kingo Hayashi de la compagnie régionale Tsubu Electric qui exploite la centrale nucléaire Amaoka située dans le département de Shizuoka à 230 km au sud-ouest de Tokyo a déclaré en conférence de presse, je cite,
« Pour l'estimation de résistance sismique des réacteurs 3 et 4 de Amaoka, nous avons constaté que la méthode employée était intentionnellement différente de celle expliquée aux autorités. »
Eh oui, il s'agit d'un mensonge délibéré qui a de graves conséquences, car le calcul de la résistance des installations au séisme est un élément essentiel pour permettre à l'autorité de sûreté nucléaire d'évaluer si ces réacteurs sont conformes aux nouvelles normes plus strictes décidées après l'accident de Fukushima. Alors, selon Tetsuya Toyoda, chef de la section énergie atomique, des salariés de la compagnie chargés des simulations de résistance sismique ont délibérément choisi depuis 2018 de travailler à partir de données de simulation sismique inexactes et en partie irréalistes.
Nous pensons que l'intention était de minimiser l'intensité du séisme de référence utilisé pour les calculs.
Une manipulation qui aurait pu permettre d'obtenir plus facilement le certificat technique nécessaire au redémarrage de ces deux réacteurs.
Alors, le gendarme du secteur nucléaire est furieux. Il a décidé de stopper net, sans attendre plus de détails, toutes les procédures d'examen qui devaient permettre à Tsubu Electric de relancer ces deux réacteurs. La remise à zéro des compteurs et les inspections à venir prendront des années selon Shinsuke Yamanaka, président de l'autorité de sûreté nucléaire japonaise.
Ce qui est violé ici, c'est la première règle des dispositions de sécurité des installations nucléaires exigées au niveau international. C'est donc une affaire extrêmement grave. Le gouvernement actuel, très pro-nucléaire et attaché à la souveraineté énergétique d'un archipel pauvre en ressources naturelles, est pressé de relancer les 33 tranches potentiellement exploitables. Seuls 14 ont pu être remis en service en conformité avec des normes de sécurité rendues plus strictes, notamment vis-à-vis des séismes et tsunamis. Selon Ouest France, le 22 janvier, le redémarrage de la centrale nucléaire japonaise de Kashiwazaki Kariba, la plus grande du monde, a été suspendu ce jeudi 22 janvier, après qu'une alarme du système de surveillance s'est déclenchée. Le personnel a soupçonné un problème au niveau des systèmes électriques et a remplacé certains composants, mais cela n'a pas amélioré la situation, rapporte la chaîne publique NHK selon le courrier international du 23 janvier. Ensuite, selon l'opérateur du site, TEPCO, le réacteur est stable, mais l'entreprise, toujours TEPCO, n'est pas en mesure de dire quand les opérations reprendront. Selon Zone Bourse, donc récemment du 26 janvier, le président de TEPCO veut garantir des conditions sûres pour le redémarrage après une enquête approfondie sur l'incident du réacteur nucléaire et reporte donc la reprise des opérations commerciales du réacteur 6 de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa au-delà du 26 février. Ça, c'est cette dernière information selon Nikkei, publiée le 29 janvier.
Alors cet incident ne manque pas pour autant de raviver le traumatisme de l'incident de Fukushima, toujours vif dans l'esprit des Japonais. Ont-ils vraiment mis la priorité sur la sécurité, comme ils nous le disaient ?
Interroge Tamutsu Ona, co-représentant d'un collectif antinucléaire local, cité dans un autre article du journal. Alors dans la ville de Kashiwazaki, certaines routes étaient bloquées au moment de l'incident du fait d'importantes chutes de neige. Si un accident était survenu, les résidents n'auraient pas pu être évacués, poursuit-il. Enfin, selon reporter du 20 janvier, la centrale de Tchernobyl a perdu toute alimentation externe et les lignes électriques vers d'autres centrales nucléaires ont également été affectées, a annoncé le 20 janvier donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui suit activement l'évolution de la situation afin d'évaluer l'impact de la sûreté nucléaire, selon Raphaël Grossi, son directeur.
Alors cette coupure d'alimentation intervient dans le cadre d'attaques russes intenses menées ces derniers jours contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, dans le cadre de la guerre d'invasion qu'elle mène dans ce pays.
Et oui, des milliers de meubles d'habitation à Kiev sont privés de chauffage et d'électricité, alors même que le pays affronte une forte vague de froid. Cette situation fait peser un risque majeur sur la sûreté nucléaire, alors que quelques 20 000 assemblages de combustible nucléaire entreposés sur site dans des piscines ont besoin d'être constamment refroidis pour éviter l'accident. La centrale a finalement été reconnectée dans l'après-midi.
Alors, en conclusion,
au Japon, le lobby nucléaire cherche à redémarrer en force, avec en plus un incident technique non élucidé sur Kashiwazaki, sa plus grande centrale.
La sécurité n'est toujours pas à l'ordre du jour, ni au Japon, ni en Ukraine.
Voilà, c'est donc un déni pour les peuples concernés.
Dominique et nos invités, nous vous laissons la parole.
Laurent Galandon et Ilan Uroz, bonjour.
Bonjour.
Laurent, vous êtes un habitué de Radio Méga ou vous avez fait la pièce Interférence, la pièce radiophonique en 2019 ?
Oui, alors c'est vrai que Radio Méga, c'est une longue histoire maintenant puisque ça fait plusieurs fois qu'on m'accueille sur votre plateau. Au cours de mes différentes productions, Radio Méga m'a offert le micro. Voilà. Donc effectivement, en 2019, on a fait tout un travail d'adaptation d'une de mes bandes dessinées, Interférence, qui portait sur le mouvement des radios pirates avant les radios libres. Cette bande dessinée, on l'a passée par un tamis, c'est-à-dire qu'on a fait disparaître les images et on a fait naître le son, ce qui a donné lieu à une pièce de théâtre radiophonique réalisée dans les conditions de celles qui devaient être les radios pirates des années 70. Donc tout ça de manière un petit peu bricolée, mais du coup quelque chose qui a un vrai ton et une vraie une tonalité qui sonne 70s.
Aujourd'hui, on est là pour parler de Retour à Tomioka. Donc, c'est une BD qui a eu le prix Fauve Jeunesse au Festival international de la BD d'Angoulême, festival qui n'a pas pu se tenir cette année. Bon, dans vos BD, vous dénoncez souvent des injustices, vous traitez aussi des sujets d'actualité, de société. Retour à Tomioka nous parle de Fukushima, dont c'est le nom détourné. Alors, pourquoi avoir écrit cette BD et combien de temps après la catastrophe qui a eu lieu le 11 mars 2011 ?
Alors, Retour à Tomioka, oui, c'est un livre jeunesse qui se déroule dans la préfecture de Fukushima, hein, puisque Tomioka est une ville implantée dans la préfecture. Alors, d'où est née cette histoire ? En fait, comme bien souvent, moi, j'ai besoin à un moment donné de m'accrocher à quelque chose. Toutes mes histoires sont souvent construites autour d'un événement historique ou d'un fait de société. Là, évidemment, en 2011, la catastrophe de Fukushima m'interpelle. Mais moi, je ne suis pas un journaliste, donc je ne suis pas capable de réagir sur l'instant. Donc, il me faut toujours un temps de latence avant de commencer à me pencher sur le sujet. Je savais qu'un jour, je viendrais à traiter de ce sujet. Et j'ai laissé mûrir jusqu'à découvrir l'existence de Naoto Matsumara, qui, dans la bande dessinée, a été transformé au profit de Natsuo. Ce personnage assez étonnant, ce fermier qui a décidé de ne pas quitter la zone de Fukushima après les catastrophes pour pouvoir s'occuper de ses bêtes. Donc je commence à m'intéresser un petit peu à ce personnage en me disant je vais essayer de construire quelque chose autour de lui et je découvre qu'une bande dessinée qui s'appelle Naoto est sortie et vraiment focalisée sur ce personnage. Donc je change un peu mon angle et je décide de le travailler à travers le parcours de ses enfants et tout le cheminement, cette espèce de road movie de ce frère et de cette sœur dans cet univers un peu inattendu, qui est celui d'une post-catastrophe nucléaire.
D'accord. Alors, les dessins sont de Michael Crouza. Comment avez-vous travaillé avec lui ?
Alors, Michael Crouza. Ce qu'il faut peut-être dire en préambule, c'est qu'initialement, Retour à Tomioka, c'est d'abord un projet de film d'animation qui a d'abord été soumis à Ilan Uros, qui vous en parlera certainement après. Et c'est devenu une BD par la suite, mais c'est d'abord un projet de film. Et donc, en fait, Michael Crouza vient du cinéma d'animation. Et donc, il avait été pressenti dans un premier temps pour la réalisation du film. Le processus de mise en production d'un film d'animation est très long. Ça, pareil, Ilan pourra certainement vous l'expliquer mieux que moi. Donc, du coup, avec Michael, on a décidé de... en attendant, si je puis dire, ou en parallèle, de mettre en chantier la bande dessinée. Voilà. Après, Michael, pour des raisons qui lui sont strictement personnelles et familiales, a décidé de quitter le projet du film. Donc maintenant, c'est François-Marc Baillet qui a pris le relais, si je puis dire, le flambeau de la réalisation du film. Mais c'est comme ça, en fait. C'est Foliascope, via Ilan et Nicolas, son comparse à Foliascope, que j'ai rencontré Michael.
D'accord, très bien. Bon, alors donc Ilan Uros, vous êtes directeur de Foliascope et vous êtes le producteur du film d'animation qui se prépare. Alors, ben, donc le projet de film était avant le projet de BD. Comment s'est fait votre rencontre avant Laurent ? Peut-être que vous vous connaissiez déjà. Et comment se construit le projet ?
On se connaît avec Laurent Galandon depuis de nombreuses années. On a essayé d'adapter plusieurs de ses œuvres avec toujours dans Foliascope un angle éditorial assez fort. On aime à raconter des histoires mais qui partent souvent d'un fait réel, d'un fait sociétal, d'un fait historique. Et on essaye d'apporter une vision plus large à nos spectateurs. En 2020, quand Laurent me propose ce script, à l'époque c'était un script, je tombe en pamoison. Enfin, je vois des images tout de suite à la lecture de ce script. C'est vraiment une écriture qui poussait à avoir une vision du Japon, à suivre le destin d'enfants, une présence de yokai, donc ces êtres fantastiques japonais, du folklore japonais, et puis surtout le sujet post-Fukushima. Donc en 2020, on a commencé à travailler. S'en est suivi un long chemin. Michael Crouza nous a réalisé un très très beau pilote en fait d'animation qui nous a permis de trouver des premiers partenaires financiers, parce qu'un film d'animation ça coûte très cher, c'est très long, il y a beaucoup de monde qui travaille. Mais voilà, on arrive aujourd'hui à une pré-production du film avec François-Marc Baillet qui, comme l'a dit Laurent Galandon, reprend le flambeau de ce long métrage, et on avance bien.
D'accord, très bien. Mais du coup, est-ce que vous avez une idée quand le film sera visible ?
Oui, oui, il est prévu d'être en salle en 2028 dans les salles françaises. Et ça va être un long chemin de création artistique, de création aussi de mise en scène, de couleurs, mais ça va être très beau. Mais c'est surtout le sujet qui nous préoccupait au premier chef, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à propos de Fukushima ?
Ouais, moi, c'est quelque chose qui est un petit peu... qui réapparaît dans plusieurs de mes livres. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on vit après une catastrophe, comment on vit après un traumatisme. Donc là, c'est ce qui se passe pour ces deux enfants, Akiko et Osamu, dans Retour à Tomioka. C'est comment on se reconstruit après avoir subi de tels traumatismes et comment on interroge, en fait, aussi par ce chemin, les raisons de notre traumatisme. Donc c'est pour ça qu'on les, ces enfants, effectivement, on les ramène dans cette zone interdite et on essaye de souligner tous les dysfonctionnements et les risques que peuvent représenter durablement une catastrophe nucléaire.
Oui, oui, et ce monstre tout à l'heure, d'ailleurs, on en parlera. Comment parler de la radioactivité ? Ben, la radioactivité, en fait, vous en avez fait un monstre. Un peu d'ailleurs comme fait Jean Covici dans Le Monde sans fin, qui le personnifie aussi.
Alors, c'est vrai que là, on avait l'opportunité par le biais du fantastique. Fantastique qui est très présent dans la culture japonaise à travers notamment les yokai, ces personnages de légende divers et variés. Alors, il y en a des yokai, il y en a un dictionnaire de 600 ou 700 pages, tous très différents. Donc, on en fait apparaître quelques-uns comme ça au cours de la bande dessinée. Et puis, on en fait naître un. Qui est ce yokai né justement de la radioactivité, ce qui permet de rendre visible ce qui ne l'est pas et d'incarner ce mal. Avec la petite réserve qu'en fait, moi j'avais vraiment envie de montrer que ce mal, il n'est pas naturellement mauvais, il n'est mauvais que par la construction de ce qu'en a fait l'homme.
Oui, d'ailleurs, il y aura même un passage du livre où il se montrera bienveillant d'une façon inattendue.
Alors, c'est là où il prendra son... En fait, si on s'attarde un petit peu sur ce personnage d'Ushokai, qui est cette représentation de la radioactivité, c'est un monstre mi-humain, mi-yokai. C'est-à-dire qu'il est un espèce de mixte entre légende et réalité. Et parfois, sa dimension de légende prend le dessus sur sa dimension humaine, humaine, ou de création humaine, qui, elle, est plus nocive.
Et comment traduire tout ça à travers le dessin, à travers les couleurs, à travers les détails aussi ? Parce que évidemment, on voit tous les paquets de toute la pollution dans cette ville. On voit aussi les habitants qui ne sont plus là. Enfin bon, il y a toute une ambiance que vous avez créée à travers le dessin, à travers la couleur, puis à travers les détails choisis.
Oui, moi je voudrais intervenir pour vous demander à quel moment, quand on adapte une œuvre littéraire, hein, bande dessinée, roman, classique, on va pas développer là-dessus, pour créer une œuvre à part entière, une œuvre cinématographique à part entière, sans être en contradiction avec l'écriture et le dessin.
C'est justement le travail qu'on est en train de mener actuellement, qu'on finalise. On a la chance d'avoir un réalisateur qui est drômois, qui habite à Grane, un auteur littéraire, auteur du scénario original qui est valentinois, Laurent. Et en fait, on se retrouve quasiment toutes les semaines, tous ensemble. Ce qui est assez rare dans la production de films, puisque généralement on achète un script, on laisse de côté un petit peu le scénariste et puis on va avancer... avec un réalisateur, un producteur, et puis voilà. Nous, on a cette chance de collaborer toujours, de toujours faire un aller-retour entre l'écriture et sa représentation à l'image. À l'image, tant dans la représentation graphique, c'est-à-dire le pur dessin, mais aussi dans la mise en scène. Vous pouvez totalement montrer notre yokai nucléaire et l'impact de cette catastrophe à Fukushima de manière totalement différente. Vous pouvez la montrer simplement en montrant des habitations abandonnées, etc. Nous, on a poussé un petit peu le curseur un peu plus loin que Laurent avait déjà esquissé dans la bande dessinée, c'est-à-dire que voilà, la radioactivité, notre héros, Osamu, la voit, chose qui n'est pas possible dans la vie réelle. Et en fait, ça nous semblait très important de montrer que oui, la radioactivité, elle est là pour des millénaires, et elle est nocive. Elle est là, on veut la personnifier, on veut la rendre dangereuse. Et par les yeux d'Osamu, on donne à voir quelque chose qui est très tabou, même au Japon. On ne parle pas des impacts de la radioactivité, c'est passé sous silence. Et même en France, le nuage qui s'arrête à la frontière. Bah voilà, nous, on essaye de pousser un petit peu le curseur pour éveiller un petit peu les consciences sur les risques que cette technologie nous fait prendre à tous. Et à tous, sans question de frontières, de classe sociale ou autre. En fait, on va être tous impactés.
Merci. À tout à l'heure.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour terre et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre. Les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes fêlées pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ces mines d'uranium, contaminent les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, il faut le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé, l'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique en braque est détraquante et son impact est invisible et nous comporte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine les conséquences entraînent. On va compter encore des dégâts et pas qu'en Ukraine. Du 16e 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre, les outils, les machines irradiées. On enterre, les combinaisons, les gants pollués. On enterre, y'a plus de place à l'ag, alors dans l'aube. On enterre, et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs.
Les personnages de cette BD.
Je voudrais préciser que c'est MC Duval qui interprétait le morceau. Il faut rendre à César ce qui est à César et pas à Bertrand. Voilà. Bon.
Et nous parlons aujourd'hui de la BD Retour à Tomioka avec le scénariste Laurent Galandon et avec le producteur du film qui est en projet, Ilan Uroz. Alors oui, donc très classiquement, il y a un côté road movie, comme vous le disiez, hein, avec les deux héros qui sont des enfants, Osaü et Akiko. Et puis, il y a d'autres personnages. Il y a la cousine, Sanae, et son fiancé, Seishi. Il y a l'homme qui est resté sur place, qui, en fait, vous nous l'avez dit tout à l'heure, est celui qui, en fait, vous a donné l'idée, qui était le premier personnage qui a été présent pour vous dans cette histoire. Mais il y en a d'autres. Il y a les policiers aussi. Bon, tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils représentent ?
Oh bah alors, je pense que alors d'abord, il participe du tricotage d'un scénario, de comment on fait évoluer une histoire. Et à la fois, je pense qu'on a essayé à travers ces différents personnages, donc la grand-mère, les enfants, les cousins que vous venez d'évoquer, d'avoir aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un peu d'une vision de ce que peut être ou de ce que pouvait être le Japon, puisqu'on est en 2013, deux ans après la catastrophe, c'est-à-dire notamment à travers le personnage de Seichi, des croyances autour de ce que pouvait avoir provoqué le nucléaire, de la peur. Sur ce qui est le personnage de Ba-chan, la grand-mère, de ce traumatisme pour notamment les personnes âgées. Hein. On sait que dans les camps de baraquement provisoires installés tout autour de Fukushima et où démarre notre histoire, il y avait beaucoup de personnes âgées qui sont mortes parce que déracinées... Et ce déracinement était extrêmement violent et ils avaient du mal à se projeter. Voilà, donc on a essayé, ces personnages-là, ils servent à nourrir à un moment donné notre propos et à donner une vision de ce que pouvait être le Japon à ce moment-là.
Oui, avec un combat entre la modernité et la tradition. Étrangement, c'est le petit garçon qui porte le respect de la tradition. Le fait que les man doivent, enfin je ne sais pas si vous employez le mot man, doivent retourner à l'endroit dont ils sont originaires avec ces papillons, les shoshekin, c'est ça, qui portent les âmes des morts. Donc on est dans toute cette ambiance de tradition donc qui est portée par l'enfant. Et puis le monde moderne, qui serait surtout porté par le cousin.
Oui, alors c'est un peu ça. Effectivement, Osamu a cette volonté de... Parce qu'on n'a pas pitché l'histoire au début dans notre entretien, qui est effectivement l'histoire de ce petit garçon, Osamu, qui, après le décès de sa grand-mère, veut absolument ramener les cendres de sa grand-mère dans le cimetière familial, puisque c'est une tradition. Or, ce cimetière, il est à Tomioka, et Tomioka est en zone interdite encore en 2013. Tomioka a été rouvert, je crois, en 2018, me semble-t-il, à la population. Et donc, c'est le cheminement comme ça. Et donc, lui, effectivement, ne peut pas entendre que, malgré la catastrophe, on puisse aller à l'encontre de cette tradition. Voilà, donc il va faire tout ce chemin.
Oui, les personnages pseudo-secondaires sont intéressants aussi. Donc, il y a ce fermier qui est resté sur place, donc qui est en fait un personnage qui existe et qui a choisi de rester finalement pour s'occuper des animaux. Parce que dans la folie des hommes, on ne tient pas compte des animaux et les animaux, ils ont droit quand même eux aussi à une attention.
Alors il y a un double niveau sur ce point-là, c'est que d'abord au moment de l'évacuation, effectivement l'évacuation a été tellement brutale que les animaux domestiques ou les animaux de ferme ont été abandonnés,
comme à Tchernobyl.
Et donc il y a des images qui sont assez terribles, des tables avec des animaux qui sont morts de faim dans les étables, etc.
Ce qu'on voit dans la BD, ce qu'on aperçoit
rapidement dans la bande dessinée. Donc il y a cet aspect-là, et il y a effectivement l'aspect aussi plus de la tradition japonaise, qui est que chaque âme doit pouvoir être accompagnée, que ce soit une âme humaine ou une âme animale, dans son chemin vers l'au-delà, si on peut dire. Voilà, donc il y a ces deux aspects-là, et Naoto Matsumara, Natsuo dans notre histoire, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de notre voyage au Japon, fait partie, alors il n'était pas le seul, il y en avait trois ou quatre comme ça qui ont choisi de rester. Alors,
pour s'occuper des animaux, aussi parce que pour lui, l'idée d'abandonner sa ferme, c'était pas possible, et de rester comme ça, lui aussi, dans cette espèce de respect de la tradition et de l'attachement à ses terres.
En acceptant d'avoir un cancer et puis d'en mourir si...
Exactement. Alors avec le petit problème aujourd'hui pour Naoto Matsumara, même s'il le formule pas de cette manière-là, il devient malgré lui comme une espèce de d'égérie du pro-nucléaire, si je puis dire. Parce qu'en fait, il n'a rien, Naoto. Il est en bonne santé. Il n'a pas de cancer, voilà, alors qu'il est resté dans la zone. Parce qu'effectivement, le fait d'être exposé... à ce jour, hein, d'être exposé à des radiations, on le sait, ça peut créer des maladies, notamment des cancers de la thyroïde et autres, voilà. Et c'est globalement prouvé. Mais il y a aussi des gens qui passent à travers. Enfin, vous voyez, là, c'est un peu le principe de la maladie. On ne sait pas toujours très bien pourquoi certains sont pris dans ses mailles et d'autres pas. Et lui, ben voilà, il est plutôt en bonne santé. Et il l'est encore aujourd'hui. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas...
C'est aussi une manière pour le lobby de dire... Vous voyez, vous pouvez revenir, puisque plus rien ne craint, il a résisté.
Alors, exactement. Bon, alors ceci dit, force est de constater que le lobby marche quand même modérément.
Oui.
Puisque en 2023, de mémoire, je crois que c'est 10 ou 15% de la population qui est revenue dans la préfecture de Fukushima.
Alors donc, qu'on veut l'y obliger.
Alors qu'on les a obligés, etc., que ça a été poussé, qu'il y a eu tout un travail de communication pas possible. Ilan, tu...
C'est pour ça que l'image des papillons dans le film et dans la bande dessinée, elle est importante, puisque les papillons vont avoir des générations beaucoup plus rapides. Et donc les effets de la radioactivité sur des générations de papillons qui vont être reproduites et reproduites vont être beaucoup plus rapides. Et donc notre personnage secondaire, le commissaire Tamura, qui est un commissaire un peu taciturne, un peu bougon, mais entomologiste amateur, il s'intéresse à ces papillons qui mutent, qui sont victimes de malformations, en fait, causées par le nucléaire. Et donc, c'est aussi une manière de rapprocher ces papillons du risque nucléaire.
Oui, moi, je voudrais vous poser, intervenir sur le fait, vous avez beaucoup parlé de ces personnages mythologiques. Hein, vous disiez qu'il y a un dictionnaire de 600 pages pour les compiler okay. Tous. Comment on allie dans une œuvre littéraire cet aspect traditionnel, mythologique et l'aspect scientifique? Alors il se trouve que sur Fukushima comme Tchernobyl, à Valence, on a un laboratoire qui a été les premiers debout à aller à Fukushima pour amener et former les gens, c'est la CRIRAD. Comment vous liez justement le fantastique et le scientifique?
Alors, peut-être rappeler que Retour à Tomioka, c'est un livre jeunesse, hein, donc c'est quand même un livre qui s'adresse à un lectorat à partir de 9-10 ans. Et jusqu'à pas d'âge, et force est de constater qu'il a plutôt bien marché, puisque même des lecteurs de tous âges s'y retrouvent. Mais on n'a pas cherché à, en tout cas, d'abord, en ce qui me concerne, par manque de compétences, même si quand j'ai écrit l'histoire, j'ai lu beaucoup de choses sur la radioactivité, etc. Mais on n'est pas dans une histoire qui a pour objectif de déployer tout un arsenal scientifique. On est plus sur les grandes masses, on va dire, de qu'est-ce que c'est que le nucléaire, quel est le danger du nucléaire et de la radioactivité, son installation dans le temps, son installation dans l'espace, sa dangerosité. Mais on va pas plus loin au niveau de notre histoire. Hein. Voilà, c'est, après, il y a des tas de supports divers et variés, bien plus pointus qu'ils ne le sont. Après, nous, on est là sur une histoire. Vraiment, on est sur de la narration. Et donc, la narration, là, effectivement, on va venir confronter à cet aspect très rationnel, hein, qui est celui de la science, mais encore une fois, nous, à notre niveau, de manière un petit peu vulgarisée, si je puis dire. Et on va lui confronter le fantastique des traditions. Parce que justement, c'est à un moment donné, il y a tout un aspect qui est dans cette histoire, ce qui est de raconter comment cette catastrophe, non seulement a chassé les gens, a détruit, mais étouffe aussi à un moment donné tous les aspects de la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur quelque chose de cet ordre-là, c'est, j'ai envie de dire, non, je ne vais pas utiliser le mot parce que ça porterait à confusion, mais on est sur quelque chose qui détruit bien au-delà des gens et des lieux. on détruit aussi une mémoire, une culture. Voilà. Et c'est tout ça qui est traduit. Et les confronter, les personnages de mythologie ou des légendes japonaises, c'est aussi comme une espèce de forme de résistance à ça.
Oui, pour compléter, les man, ce sont les ancêtres. Donc, c'est bien la mémoire ancestrale du peuple qui était en cause.
Et quand on est dans un film d'animation, en fait, notre principal objectif, c'est d'éveiller des consciences, d'éveiller de la curiosité. On va surtout avoir affaire à un public jeune, familial, et donc amener le fantastique, amener l'image, amener le potentiel en termes d'animation avec des choses qui explosent, des choses qui sont belles, des belles lumières, des belles couleurs. Ça amène une réflexion avec le sujet principal, mais aussi les rapports entre frères et sœurs, les rapports avec nos aïeux, les rapports avec l'environnement au sens large. Donc on va plus éveiller les consciences que donner une vraie dissertation scientifique, loin de là notre ambition.
Il faut d'une façon très simple, les bons et les méchants, si on peut dire, et à l'opposé de ce monde humaniste, ben, il y a justement le cousin, Seishi, qui lui est complètement dans le monde moderne, qui est prêt à s'adapter, il est prêt à partir à Tokyo et il est prêt à accepter le tabou. Ça revient sans arrêt quand on sera à Tokyo, surtout ne dites jamais que vous venez de Tomioka, à la cousine, à sa fiancée qui est très compréhensive, il dit non, on doit partir, tu ne veux pas avoir d'enfants mal formés. Enfin, c'est vraiment l'autre bout du spectre.
Oui, et en même temps, on n'oppose pas les générations. Notre héroïne Akiko, elle fait des tutos sur YouTube, des tutos de maquillage. Elle est totalement connectée. Elle se sert d'un téléphone pour rejoindre Tomioka avec son frère. Donc on n'est pas dans une opposition modernité et passéisme ou tradition. On est plutôt dans un ingénieur tokyoïte qui, par peur, par méconnaissance, va même jusqu'à se couper de la seule famille qui reste de sa femme, Sanae. Donc c'est plus sur cette opposition. On peut être ingénieur et être complètement fermé à la solidarité, à la vision long terme et à être solidaire de petits cousins qui ont vécu une catastrophe comme Fukushima.
Et inversement, les policiers aussi sont des gens très nuancés.
Tout à fait.
Ils sont censés faire appliquer la loi. On n'a pas le droit d'entrer dans cette zone qui est dangereuse. Et en même temps, vous les montrez conscients des dangers de la radioactivité.
Oui, c'est le personnage de Tamura qui est un personnage qui est assez intéressant parce que le personnage de policier est toujours intéressant quand il est nuancé parce que justement, en fait, il est pris entre le fait de devoir faire des injonctions. Il est pris dans des injonctions contradictoires, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il doit faire respecter la loi qui est celle de ne pas rentrer dans les zones interdites. Et en même temps, parce que c'est un quinquagénaire, comme l'a dit Ilan, passionné par les papillons, etc., et les traditions, il entend ce que veulent faire les enfants. Donc voilà, ce personnage est probablement un des personnages qui me plaît le plus dans cette histoire.
Oui, parce qu'il est très nuancé, justement.
Il apporte en plus un contrepoint, puisque c'est quasiment lui qui va sauver les enfants en essayant de les sauver, de les garder de tout le mal nucléaire. Donc en fait, il est conscient du risque que les enfants prennent, et en même temps, il comprend ça. Et c'est toute l'ambiguïté qu'on a aujourd'hui, même dans notre quotidien. On a de plus en plus d'informations, malgré tout le lobbying qui désinforme ou transforme les informations. On est conscient des risques. Et en même temps, on nous empêche d'aller jusqu'au bout. Donc Tamura, c'est un petit peu quelqu'un d'éclairé qui va comprendre. Et en même temps, il est tiraillé par sa fonction.
Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes allé au Japon.
Oui, on a eu cette chance-là. En fait, en tant que producteur, moi, je me devais de trouver des moyens d'emmener Laurent, François Marc, mon associé Nicolas. On est tous partis à Fukushima, à Tokyo. Et on a eu la chance d'être accompagné aussi par la CRIRAD. Et je pense que Laurent va en parler.
Oui, donc on est parti une semaine pleine dans la préfecture de Fukushima. Alors l'album de bande dessinée, lui, était déjà bien avancé au moment où on était, en novembre 2023, c'est ça. Mais je pense que c'était, alors si dommage que Marco soit pas là, mais je pense que c'est peut-être lui qui aurait pu le mieux en parler parce que Moi, ça m'a permis de corriger des petites choses au niveau de la bande dessinée, au niveau du scénario en général, pour des petits détails ici ou là. Mais je pense que là où c'était ce voyage, il était très, très important. C'est plus pour le réalisateur parce que il a pu là aller attraper, vous savez, tout ce qui est de l'ordre du sensible, de l'ordre du difficilement exprimable, même oralement, c'est-à-dire que les ambiances, les vents, les odeurs, les vides, les silences, toutes ces choses-là que moi je ne connaissais pas, puisque j'avais travaillé exclusivement sur une base documentaire initialement. Et quand on y est, même en 2023, donc quand même donc 12 ans après la catastrophe, ces stigmates, ils sont encore extrêmement présents. C'est-à-dire de lieux qui sont abandonnés, de lieux qui sont encore, comment dire, des ruines, hein, fragiles, et des lieux où, effectivement, tout a été nettoyé, mais où vous voyez encore les soubassements des maisons. Donc, en fait, la présence de la maison n'est plus là, mais sa présence est encore là. Et quand il y en a comme ça, sur plusieurs hectares, vous devinez la ville, et peut-être même si vous poussez un tout petit peu l'imagination, vous entendez les bruits. Donc je pense que tout ça, ça a considérablement nourri Marco, et je pense que le film va considérablement gagner grâce à ce voyage.
Combien de temps vous y êtes resté ?
Alors on est resté 7 jours pleins. Alors juste dans le petit périmètre qui est celui, alors 7 jours ça peut paraître court comme ça, mais c'était 7 jours dans la préfecture de Fukushima autour de retour de Tomioka, pardon.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on ça fait longtemps qu'on travaille avec la CRIRAD, et donc on avait loué un compteur en fait. Moi je ne voulais pas que toute l'équipe du film aille sur zone sans avoir un minimum d'informations des lieux qu'ils traversaient. Et comme ils ont traversé vraiment des forêts, des routes, etc., ils ont fait des relevés au fur et à mesure. Et c'était encore catastrophique. Voilà, donc il y a eu des moments où on dépassait les 1,7 de mémoire, hein, là où quand on est sur du granit à 0,4 en millisievert, bon, on n'y reste pas en fait. Donc ils sont pas restés très longtemps quand il y avait du 1,7. Et ça en fait, c'était un peu partout. Et donc on a discuté aussi, vous avez discuté, puis on a beaucoup échangé avec Cécile Rimet. Cécile qui est chercheuse du CNRS CRIRAD à Tokyo sur les retombées sociologiques et scientifiques de la catastrophe, qui nous apporte aussi des éléments factuels en fait. Et je voudrais juste rajouter que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partenaires japonais, des studios, des gens que l'on connaît, des interlocuteurs qui nous redisent tout le temps que c'est très important ce qu'on est en train de faire, que la chose la plus importante, c'est de montrer l'impact de cette catastrophe et montrer également ce qui est invisible, inodore, qui ne fait pas de bruit, mais qui est cette pollution radioactive qui va être là pour des millénaires et qui a pollué toute une partie du Japon et qui va l'être encore beaucoup.
Merci Ilan Nulloz, merci Laurent Galandon. Merci. Amis auditrices, auditeurs, on vous conseille cette bande dessinée Retour à Tomioka, l'aventure comme il se doit de deux enfants, de deux héros courageux, prêts à passer les interdits pour faire ce qui leur paraît utile. Et puis on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses avec beaucoup de plaisir. Et puis, donc, ce sont les éditions Jungle. Et puis, quand vous irez à la librairie, il y a beaucoup d'autres BD de Laurent Galandon. Et il y a, sur des thèmes très différents, il y a Gambolier sauvage, il y a Quand souffle le vent, Chaïda, Se l'appelle. Mais bon, ce ne sont que quelques titres lancés comme ça. Voilà.
Merci à tous les deux. Merci à toi, Georges, et à Dominique. Vous pouvez bien entendu dans toutes les bonnes librairies retrouver cet ouvrage. Alors, toutes les informations complémentaires sur arrêt du nucléaire, vous pouvez y aller sur sdn26-07.org. Cette émission a été réalisée aujourd'hui à la programmation musicale Jean-Pierre, que l'on salue, aux interviews, animations et rubriques Dominique, Georges et moi-même, Gérard. Merci Laurent, et merci à vous aussi Ilan pour être venu. Alors, cette émission est téléchargeable et podcastable sur les radios partenaires, Radio Méga, RDOA Adi et Radiola A sur Dielphi. Fidèles auditrices et auditeurs des radios libres, défendons ensemble nos radios libres associatives non commerciales. Nos radios sont en danger, l'État veut raboter nos financements. Nos radios sont les espaces d'expression de notre liberté de parole. Merci à toutes et à tous et au mois prochain.
La grande vague nous est venue, nous a enveloppés en son sein. L'océan nous a marché dessus, nous a croqué comme un requin. Vous